Je vous invite à prier avant d'ouvrir et d'essayer de comprendre ensemble la parole inspirée de Dieu. Prions. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as affermi la terre et elle subsiste. C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans mon malheur. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux, tu me fais vivre. Notre Dieu, notre Père, c'est notre prière ce matin que par ta parole, tu puisses nous faire vivre. Au nom de Jésus. Amen. Quand vous regardez autour de vous, que voyez-vous ? De très belles choses, vous allez me dire. De très belles choses. L'ASM Clermont-Auvergne. Les jaunes et bleus, je me suis renseigné. Ou le Clermont Foot 63. Je me suis renseigné. Qui gagnent dans leurs championnats respectifs. Une belle victoire en championnat. Ça fait plaisir pour ceux qui aiment le foot ou le rugby. De belles histoires d'amour, comme celle de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Pourvu que ça dure. Le nombre de chrétiens en Chine qui n'a cessé d'augmenter depuis 1970 et qui est aujourd'hui estimé entre 60 et 80 millions. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez de très belles choses, n'est-ce pas ? Mais vous voyez aussi des choses beaucoup moins belles. Un contrôleur de la SNCF qui se fait poignarder de 8 coups de couteau par un déséquilibré entre le train reliant Lyon à Strasbourg, c'était jeudi dernier, des suicides liés à la souffrance au travail. Saviez-vous qu'avec 12 000 cas par an, le suicide est plus meurtrier que les accidents de la route ? Des histoires d'amour qui finissent mal, mais c'est peut-être votre expérience. Ce fut la mienne en tout cas, dans ma vie. Des hommes et des femmes que nous croisons peut-être tous les jours, dans les transports en commun, à la fac, au travail, qui sont peut-être déprimés selon l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, une personne sur cinq est touchée par la dépression dans sa vie. Et j'en ai fait partie. Des hommes et des femmes qui sont peut-être déprimés et qui vivent sans espérance et sans Dieu dans le monde. Comment réagissez-vous en voyant ce monde qui souffre ? Que faire pour répondre aux besoins de notre monde, de notre pays, la France, de notre ville, Clermont-Ferrand, de nos prochains ? Que faire ? Eh bien, ce matin, à la lumière d'un court passage dans l'évangile de Matthieu, j'aimerais nous encourager, et moi le premier, à faire deux choses. Qui sont à la portée de tout le monde dans l'Église. Ça vous dit ? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Un évangile, c'est le récit de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus au chapitre 9, et des versets 35 à 38. Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues. Prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » J'aimerais nous encourager, m'encourager moi-même à faire deux choses qui sont à la portée de tout le monde dans l'Église. Premièrement, voir comme Jésus a vu. Voir comme Jésus a vu à partir du verset 36. Je passe rapidement sur le verset 35 où Matthieu est en train de résumer l'activité de Jésus depuis le début de son ministère, de son travail, de sa mission sur terre. Si vous avez déjà lu cet évangile, Jésus a d'abord commencer par enseigner la loi du royaume de Dieu, des chapitres 5 à 7, vous vous rappelez, dans le sermon sur la montagne. Il a ensuite déployé son autorité en tant que roi du royaume, dans les chapitres suivants, en enseignant dans la synagogue, c'est ce que Matthieu dit, hein, regardez au verset 35, en proclamant la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, et en guérissant des malades. Et le voilà maintenant, mais imaginez la scène, et le voilà maintenant face à une foule de gens, et à la vue de ces foules, comment Jésus réagit-il? Regardez encore le verset 36 avec moi. À la vue des foules, Jésus en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le verbe employé dans ce verset, dans le texte original, pour décrire le sentiment intérieur de Jésus, est très très fort. Littéralement, en réalité, il fait référence aux entrailles, si bien que nous pourrions presque traduire à la vue de ces foules. Jésus fut pris aux tripes. À la vue de ces foules, Jésus eut mal au ventre, un peu comme quand vous avez mal au ventre. Avant de passer un examen ou avant un moment important dans votre vie. Jésus a mal au ventre. Pourquoi? La réponse est au verset 36. Parce qu'il voit des hommes et des femmes blessés et abattus, ou lassés selon les versions, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Des brebis et des bergers. À quoi est-ce que cela vous fait penser? Des brebis et des bergers. Alors, je pense que Jésus fait ici référence, et je soumets cela à votre discernement et à votre connaissance biblique, mais je pense que Jésus fait ici référence à plusieurs passages de l'Ancien Testament, Nombre 27, notamment 1 Roi, chapitre 22, Ézéchiel 34, des passages qui parlent de bergers pour désigner les rois et les responsables religieux et politique du peuple d'Israël. Et si vous lisez l'histoire de ce peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible qui raconte les promesses un peu que Dieu fait à son peuple, que constatez-vous? Eh bien, vous constatez qu'aucun roi, qu'aucun responsable politique ou religieux, à de rares exceptions près, il est vrai, n'a fait son job correctement. Tous ont échoué dans la mission de berger que Dieu leur avait confiés. Les brebis n'ont pas été nourries. Les bêtes malades n'ont pas été soignées. Le peuple d'Israël négligé n'a pas été enseigné. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, en Ézéchiel 34 notamment, va annoncer qu'il va lui-même venir en personne pour accomplir cette mission de berger. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'il a fait dans la personne de Jésus. Dieu fait homme. Le Nouveau Testament enseigne que Jésus est le bon berger, dans l'évangile de Jean, chapitre 10 notamment. Le berger par excellence venu faire du bien à son peuple, en enseignant fidèlement la loi de Dieu, dans le sermon sur la montagne par exemple, en guérissant des malades, en déployant son autorité en tant que roi du royaume, en faisant du bien à son peuple, en tant que berger du peuple, mais de manière suprême, en acceptant de donner sa vie pour ses brebis, en acceptant, imaginez, d'être crucifié à la place des créatures rebelles que nous sommes, à la place de la créature rebelle que je suis. En acceptant en réalité de payer le prix, la rançon de nos péchés, pour offrir l'assurance d'être pardonné et réconcilié avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette illustration. Si vous l'avez déjà vue, je m'excuse, d'accord? Comme toute illustration, elle a ses limites, mais c'est un peu comme si ce livre, hein, la Bible, c'est un peu comme si ma main me représentait et comme si ce livre représentait mon péché, ce qui me sépare de Dieu et ce qui m'empêche d'entrer en relation avec lui, d'accord? Imaginez que l'espace infini représente Dieu, que ma main me représente, que ce livre représente ce que la Bible appelle le péché, ce qui me sépare de Dieu. Eh bien, c'est un peu comme si Jésus, représenté par cette main, avait pris sur lui le poids de mes fautes qui m'empêchent d'être en relation avec Dieu. Si bien que je suis libéré du juste jugement de Dieu, parce que Dieu est un Dieu juste, et que je suis en mesure d'être réconcilié avec Dieu, non pas en vertu de ce que j'ai fait moi, mais en vertu de ce que Jésus a fait pour moi. C'est un peu ce que Jésus a fait pour nous sur la croix en tant que bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Tout ça par amour, tout ça par compassion, pour tous ceux qui sont blessés, lassés et abattus, pour tous ceux qui sont sans Dieu et sans espérance dans le monde, pour tous ceux qui sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, dans un premier temps, je ne peux m'empêcher de vous poser cette question qui, me semble-t-il, est importante. Qui est votre berger ? Qui est votre berger ? Nous suivons tous quelqu'un ou quelque chose dans la vie, un guide spirituel, comme le Dalai Lama, par exemple ? Un homme ou une femme politique, comme Ellen Johnson Sirleaf, qui s'est vue décerner le prix Nobel de la paix la semaine dernière, en compagnie de deux autres femmes du Libéria. Un entrepreneur comme Steve Jobs, cofondateur d'Apple, est décédé cette semaine. L'amour, l'argent, nous suivons tous quelqu'un ou quelque chose dans la vie. Alors tous ces bergers, bien entendu, entre guillemets, hein, ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Je ne suis pas du tout en train de dire cela. Mais ils y sont incapables de répondre à notre plus grand besoin, au plus grand besoin de notre vie, le pardon de nos fautes, et de nous réconcilier avec Dieu, ce que seul Jésus peut faire en tant que Dieu fait homme. Lui, le juste, qui a été condamné pour des injustes, lui, l'innocent, qui a été condamné pour des coupables, lui qui est devenu péché, comme nous l'avons lu en 2 Corinthiens chapitre 5, pour nous ramener à Dieu, pour nous réconcilier avec lui. Si Jésus n'est pas votre berger ce matin, pourquoi ne pas faire de lui le berger de votre vie en vous approchant de lui dans la repentance et dans la foi? Mais dans un second temps, si Jésus est votre berger, si vous êtes son disciple, je ne peux m'empêcher de vous poser cette question, et cette question je me la pose à moi-même. Est-ce que je vois comme Jésus a vu? Est-ce que je vois comme Jésus a vu? Quel regard est-ce que je porte sur les personnes que je côtoie tous les jours et qui ont peut-être perdu tout repère, tout espoir dans la vie? Est-ce que je les vois comme Jésus les a vus, comme des brebis sans berger, avec amour et compassion? Imaginez, vous êtes dans un bus à Clermont-Ferrand ou ailleurs, un homme monte avec deux enfants. Il s'assoit dans le bus, mais les enfants sont visiblement agités. Ils chahutent, ils vont, ils viennent. Ils embêtent tout le monde, d'accord, dans le bus. Et le père ne dit strictement rien. Il reste assis sur son siège, sans rien faire, les yeux dans le vide. Vous assistez à la scène quelque peu médusée. Comment réagissez-vous? Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cet homme? Voilà ce que j'aimerais lui dire personnellement. Cela n'engage que moi, bien entendu. Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous occuper de vos enfants? Vous voyez bien qu'ils dérangent tout le monde dans ce bus, et moi le premier. Et cet homme de me répondre, monsieur, je sors de l'hôpital. Ma femme vient de mourir. Alors il est toujours difficile de savoir ce qui se passe dans la vie de ceux que nous croisons tous les jours, j'en suis bien conscient, surtout dans la vie de ceux que nous ne connaissons pas. Mais ne sommes-nous pas, ne suis-je pas plus prompt à juger les autres? Je parle pour moi. Plus prompt à les juger qu'à les aimer. À les voir comme Jésus les a vus, avec amour, amour et compassion. Comment faire pour répondre aux besoins de ce monde qui souffre? Premièrement, voir comme Jésus a vu, à partir du verset 36. Deuxièmement, des versets 37 à 38, prier comme Jésus a prié. Prier comme Jésus a prié. Relisons ensemble les versets 37 et 38, si vous le voulez bien. Alors Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors dans ces versets, je suis bel et bien conscient que Jésus ne prie pas directement, mais je crois néanmoins qu'il nous donne un modèle de prière. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Un modèle de prière. Et il est possible que Jésus ait lui-même fait cette prière. Toujours est-il que ce modèle de prière part d'un constat. Est-ce que vous l'avez vu, ce constat, au verset 37 ? La moisson est grande, selon les versions, abondante. Autrement dit, le nombre de personnes qui sont prêtes à accueillir l'évangile prêché, le nombre de personnes prêtes à accepter de suivre Jésus en tant que berger, ce nombre est grand, abondant. Est-ce que cela vous surprend ? Personnellement, je suis quelque peu surpris et j'ai même parfois du mal à croire ce que Jésus dit. À quoi bon inviter mes amis à l'église le dimanche matin ? À quoi bon inviter mes copains de fac au GBU le mercredi soir ? Ils sont tellement hostiles, tellement indifférents, ils se moquent de moi quand je leur dis que je suis chrétien. À quoi ça sert de les inviter ? À rien. Mais Jésus dit ceci, la moisson est grande. Il dira un peu la même chose dans le livre de Jean, chapitre 4 et au verset 35, je vous le lis, « Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. » Est-ce que vous croyez ce que Jésus dit ? La moisson est grande. Dans sa grâce surabondante, Dieu a prévu d'attirer à lui des hommes et des femmes dans le monde entier. Et c'est ce qu'il fait depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il suffit de constater ce qui se passe en Corée du Sud. Savez-vous qu'il y a un siècle, 1% de la population était chrétienne en Corée du Sud. Aujourd'hui, 40% de la population est apparemment convertie. Il suffit de constater ce qui se passe en Russie aussi. Saviez-vous qu'il y a 20 ans, le GBU n'existait pas du tout en Russie ? Pas de trace du GBU en Russie. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il est présent dans beaucoup de villes universitaires ? La moisson est grande. Dans sa grâce surabondante, Dieu a prévu d'attirer à lui des hommes et des femmes dans le monde entier. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait depuis le début de l'histoire de l'humanité. Cette moisson est grande. Elle est prête à être récoltée. C'est un peu comme un fruit mûr qu'il suffit de toucher, vous savez, pour qu'il tombe d'un arbre. Ça vous est déjà arrivé de toucher un fruit pour qu'il tombe d'un arbre. La moisson est grande, elle est prête à être récoltée. En fait, depuis 2000 ans, le monde dans lequel nous vivons n'est pas confronté au manque de moisson, pas du tout, mais au manque d'ouvriers pour travailler dans sa moisson. Et c'est ce que Jésus dit, hein, regardez encore le verset 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Selon un sondage récent effectué dans certaines églises protestantes, je ne dis pas que cette statistique concerne toutes les églises protestantes évangéliques de France et de Navarre, hein. Ça concerne une dénomination. Saviez-vous que 55% des pasteurs français ont plus de 55 ans dans cette dénomination ? 95% ont plus de 40 ans. Je pose la question, mais qui va les remplacer ? Je n'oublierai jamais l'inquiétude de mon père quand je lui ai annoncé que j'allais travailler pour les GBU. Je suis devenu chrétien en Angleterre, j'ai fait mes études ensuite à Paris, j'ai éprouvé le désir de donner ce que j'avais reçu en Angleterre et le GBU m'a offert cette possibilité. Et le jour où j'ai annoncé à mon père que j'avais projeté de travailler pour le GBU, voici ce qu'il m'a demandé. « Mais tu auras du boulot dans ton milieu ?» Et moi de lui répondre « Papa, la moisson est grande. » Mais il y a peu d'ouvriers. Alors je ne lui ai pas dit ça comme ça, bien entendu, mais je lui ai fait comprendre que la moisson était grande et qu'il y avait peu d'ouvriers, que le travail pastoral est peut-être l'un des rares milieux qui ne connaîtra jamais la crise en France, en tout cas, dans la mesure où il y a beaucoup plus de travail à faire, de moissons à récolter, que de main-d'œuvre à employer, que d'ouvriers. Alors que faire ? Comment faire pour répondre aux besoins de notre pays ? Prier comme Jésus a prié. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière que Jésus demande à ses disciples de faire ? Est-ce que nous prenons le temps, est-ce que je prends le temps de prier le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson ? À Clermont, par exemple, j'ai besoin d'aide en région Rhône-Alpes. Si vous êtes intéressé, venez me voir. Je sais que ce n'est pas toujours facile, je sais qu'il faut parfois éteindre l'ordinateur, éteindre la télé. Je sais qu'on n'a pas toujours envie Moi le premier, je sais qu'on n'a pas toujours le temps, je sais qu'on est fatigué quand on rentre tard le soir, qu'on a des soucis. Mais quand on y pense, quel privilège, quelle joie ce devrait être. Jésus nous demande de prier, écoutez bien, Jésus nous demande de prier et nous permet ainsi, par le moyen de la prière, de participer à la récolte de la moisson du Seigneur. Vous vous rendez compte? Il nous permet de participer à l'accomplissement des plans de Dieu pour le salut du monde entier par la prière. Mais quelle joie, quel privilège ce devait être de pouvoir participer, parce que Dieu me le demande, nous le demande, à l'accomplissement de ses plans de salut pour le monde, simplement en priant, comme Jésus a prié. Mais êtes-vous prêt à aller même plus loin? Plus loin. En priant comme Jésus a prié, en lui demandant d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, avez-vous conscience que vous êtes peut-être la réponse à votre propre prière? Je vous laisse réfléchir à cette possibilité. Que faire? Comment faire pour répondre aux besoins de notre monde? Premièrement, voir comme Jésus a vu, avec amour et compassion. Deuxièmement, prier comme il a prié. Pour conclure, j'aimerais donc vous poser cette question à laquelle je vous propose de répondre dans le secret de votre cœur. Comment pourrais-je servir Dieu de la manière la plus efficace avec les dons qu'il m'a accordés? Comment pourriez-vous servir Dieu de la manière la plus efficace avec les dons qu'il vous a accordés dans votre église locale, au GBU, si vous êtes étudiant. Je suis bien conscient que nous ne sommes pas tous appelés à devenir si ou à devenir pasteur, que nous avons besoin de chrétiens qui travaillent dans le milieu séculier pour être des témoins sur le lieu de travail. J'en suis bien conscient, mais nous avons tous un rôle à jouer, absolument tous, d'une manière ou d'une autre, dans la grande moisson du Seigneur. Alors pourquoi ne pas commencer en voyant comme Jésus a vu, avec amour et compassion, et en priant comme il a prié. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant, en terminant dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour le regard que le Seigneur Jésus a porté et porte encore aujourd'hui sur tous ceux qui sont laissés, lassés et abattus. Tous ceux qui sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Aide-nous à voir comme tu as vu, avec amour et compassion. Aide-nous aussi à prier comme tu as prié et comme tu nous demandes de le faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous prions que le Seigneur de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson, à Clermont, en France, et dans le reste du monde, pour le salut du plus grand nombre. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen.